Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. 1 200 000 patients atteints de la maladie d'Alzheimer en France, et ça ne risque pas de s'améliorer. À l'occasion de la Journée mondiale de l'Alzheimer, Benoît Durand, directeur général de France Alzheimer et maladies apparentées, nous parle des missions de son association pour aider les patients, les aidants et bien sûr la recherche. C'est un des experts les plus reconnus dans le monde de la e-santé. Il dirige Buzzy Santé, média d'information sur le digital santé et la e-santé en général. Rémi Tesson va nous donner les dernières news importantes dans le monde de la e-santé. C'est probablement l'événement européen le plus important sur l'écosystème de l'innovation en santé, les HTID, Healthtech Innovation Days, qui auront lieu à Paris en octobre les 13 et 14. Et Pierre Courteil, son vice-président et trésorier, est sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Benoît Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de Check-up Santé.
Ça fait la deuxième fois, tout à fait.
Un des rares habitués de Check-up Santé.
Eh bien, j'espère. On dit jamais 203, donc.
On dit jamais 203. Vous êtes bienvenu quand vous voulez. Vous êtes donc le directeur général de la fameuse association France Alzheimer et maladies apparentées.
Maladies apparentées, puisqu'en fait, il y a des maladies apparentées à Alzheimer. Je vais en citer deux les plus connues dans les maladies apparentées. La maladie dite à Cor de Lévy.
Oui. Et difficile à différencier d'ailleurs, hein, parfois.
Oui, mais la maladie de Cor de Lévy, c'est un espèce de mix, malheureusement, mm-hmm. entre Parkinson et Alzheimer, ouais. avec des troubles moteurs et des troubles cognitifs. Mm-hmm. Et vous avez aussi la DFT, la dégénérescence fronto-temporale. Donc c'est pour ça qu'en fait, on englobe le Alzheimer et maladie apparentée.
Alors, combien de patients atteints d'Alzheimer en France?
Eh bien, vous l'avez dit, 1,2 million de personnes malades, avec une projection à 2050 à 2,3 millions en France. Ouais. Ça représente à peu près 9 millions en Europe et 50 millions aujourd'hui dans le monde, donc ce qui est assez considérable.
Et toujours, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cause vraiment bien déterminée. De la maladie d'Alzheimer.
Il y a
une hérédité, il n'y a pas d'hérédité.
Oui, il y a de l'hérédité, mais de très très faible, hein, autour de 1%. Par contre, après les causes.
Mais ça, il ne faut pas confondre sénilité et puis Alzheimer. Hein,
effectivement, c'est pas pareil. Après, on connaît des facteurs de risque, mais qui sont communs en fait à beaucoup de pathologies. Oui. L'isolement, la dépression, pas de sport, malbouffe, etc.
Et pas de cause cardiovasculaire.
Si, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Alors. Hélas, toujours pas de traitement vraiment efficace.
Pas de traitement curatif. Par contre, on a quand même.
Que fait la police, quoi?
Bah, c'est que, oui, que fait la police? Mais les chercheurs, en fait, œuvrent. Du coup, je voudrais presque les encourager à continuer à œuvrer. Il faut pas justement les décourager. On a des signaux prometteurs, notamment qui devraient sortir en.
Donc, il y a des médicaments dans le pipe, alors?
Des médicaments, je ne sais pas, en tout cas des molécules prometteuses qui pourraient amener à un médicament. Alors peut-être pas dans un premier temps curatif, mais en tout cas ne serait-ce que freiner, voire stopper l'évolution des troubles cognitifs, ça serait déjà super.
Et ensuite, ces médicaments, ils sortiraient quand?
Alors moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça serait pas avant 2024 sur les premiers tests, mais du coup c'est des phases 3, donc voilà.
Pas avant 2026-2027, quoi.
Oui.
Alors, France Alzheimer et maladies apparentées, donc c'est une très grosse association qui existe depuis
plus de 35 ans. Ouais. Donc, effectivement, avec un réseau, un maillage territorial très fort, puisqu'on est présent partout en France, à travers 101 associations départementales.
101 associations, d'accord. Ouais.
Mais aussi Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Réunion. Voilà.
J'imagine donc, beaucoup de bénévoles.
2200 bénévoles.
2200 bénévoles, d'accord.
Oui, 2200 bénévoles. Et du coup, 4 missions essentielles.
Alors justement, d'abord, avant de parler des missions, cette semaine, donc c'était la journée mondiale de l'Alzheimer, journée vraiment mondiale.
Donc, à chaque fois, nous, on se mobilise.
Et c'est l'occasion de sensibiliser un petit peu le public.
Bah, c'est ce qu'on veut faire. Et du coup, cette année, on a voulu aussi déstigmatiser, prendre à contre-pied la maladie. Mmh. Et du coup, on a organisé dans quasiment plus de 80 lieux en France des balles populaires.
Donc, des événements plutôt festifs, alors.
Plutôt festifs. Oui. C'était aussi une demande depuis depuis la pandémie, le confinement aussi des aidants, de sortir de la de cette anxiété, de ce manque de répit, etc. Donc on a voulu plutôt un événement festif pour amener aussi un autre regard sur la maladie et amener les gens à venir nous voir et ne pas s'isoler et de rester dans leur coin.
Et est-ce que le Covid vous a fait du mal sur le plan de la communication, de la sensibilisation des Français sur la maladie d'Alzheimer?
Alors la pandémie nous a fait du mal. Alors oui, nous a fait du mal. Déjà des effets directs, hein, parce que d'après
sur le mental et sur le
Oui, mais alors d'après des chiffres de Alzheimer Disease International, il semblerait que 25% des personnes décédées du Covid avaient des troubles cognitifs. Donc c'est quand même assez considérable. On a vu aussi que les personnes malades d'Alzheimer...
Vous parliez de l'isolement...
Oui, mais c'est lié. Mais c'est lié, justement, voilà, c'est lié. Et notamment aussi dans les EHPAD, en fait, on a vu, nous, s'accélérer les troubles cognitifs des personnes. Et aussi, ça a eu des effets aussi à domicile pour les aidants, où à partir du moment où du jour au lendemain, ils n'ont plus d'aide à domicile, plus d'accueil du jour, plus de plateforme de répit, etc. On a eu, malheureusement, nous, des remontées terrain, comme quoi il y avait eu des suicides chez les aidants.
Alors, vous avez organisé des balles à facettes.
Oui, entre autres, des balles à facettes à la fois. Bah, voilà, c'est pour là aussi, c'est pour amener des personnes et puis pour danser, chanter et puis à la fois communiquer sur ce qu'on peut faire, sur l'accompagnement au quotidien, mais à travers effectivement un événement festif.
Alors justement, vos missions, évidemment, elles sont multiples. Hein, évidemment qu'il faut former les personnes. Il faut former évidemment les professionnels de santé. Il faut former aussi les aidants.
Il faut former les aidants. Alors du coup, peut-être que le mot formation est un peu fort, mais en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, la formation des aidants. Pourquoi formation des aidants? Parce qu'en fait, pour mieux comprendre d'abord la maladie, l'évolution de la maladie, l'accompagnement aussi de la personne malade, et aussi un mode de communication qui va forcément en fait être différent selon l'évolution de la maladie et qui est important. Quand il y a plus de paroles, il y a aussi une autre sorte de communication par le regard, le toucher, les sens. En fait, c'est important. Donc du coup, en fait, on communique aussi là-dessus. Oui. Et puis après,
est-ce qu'on peut pas dissocier le patient de ses aidants, c'est quand c'est accompagnant, c'est pas possible.
Non. C'est franchement c'est lié, évidemment.
Donc vous avez une action aussi de sensibilisation, vous l'avez dit, sur la maladie.
Oui.
De quelle façon on part? Évidemment, quand c'est la journée mondiale, évidemment, des événements festifs, mais j'imagine que vous...
Toute l'année.
Nous, vous communiquez toute l'année?
On communique toute l'année, après on est relayé ou pas. En tout cas, merci du coup de me permettre de relayer. Mais du coup, nous, on œuvre au quotidien, on accompagne les familles, on a des actions spécifiques pour les personnes malades, des actions spécifiques pour les aidants, des actions spécifiques pour le couple aidant-aidé. Ouais. Donc à travers toutes les associations départementales. Je rends hommage aussi aux bénévoles. Ouais. Et du coup, en fait, c'est tous les jours. Nous, c'est tous les jours.
Et avec donc ces bénévoles qui vont aller voir, parce que les bénévoles ne sont pas des aidants, ou ils sont aussi aidants parfois?
Nous avons des bénévoles qui sont aidants, et nous avons aussi des bénévoles qui sont des anciens aidants. Donc du coup, ils peuvent partager aussi l'expérience qu'ils ont pu vivre. Du coup, c'est assez riche, mais en fait, on n'a pas que des anciens aidants non plus. Hein. On a toutes sortes de bénévoles.
Parce qu'il y a aussi des associations donc de patients, pas Alzheimer, mais d'aidants ou de... Il y en a aussi, donc vous avez des rapports avec eux, avec ces associations?
Nous, à partir du moment où c'est complémentaire, sur les actions de terrain, nous on a beaucoup de partenariats avec beaucoup de structures associatives, qui œuvrent dans le même sens en fait.
Et évidemment, vous aidez aussi la recherche?
Donc, et on aide la recherche.
Que vous dédiez donc à la recherche tous les ans.
Tout à fait. Donc on a quatre missions. Donc ça, c'est une des quatre. Donc on octroie 1,2 million par an en moyenne. Donc on a investi plus de 20 millions en une quinzaine d'années. On vient de créer aussi un fonds de dotation dédié spécifiquement à la recherche. Et là, ça y est, c'est lancé. On va lancer une cohorte unique au monde où on va pour la première fois en fait réunir une personne malade d'Alzheimer en début de diagnostic, son aidant, et une personne apparentée à la personne malade. Pourquoi? Pour avoir en fait un éventail très large, à la fois sur la prévention, sur l'évolution de la maladie, sur l'impact santé de l'aidant quand il accompagne une personne malade, et aussi tous les caractères en fait héréditaires. Donc c'est un trio unique au monde. Ouais. On espère donc avoir une base de données. Donc du coup, là aussi, on cherche de l'argent. La phase expérimentale qui va durer 2 ans, il nous faut 1 million d'euros. Donc là aussi, vous pouvez fonds dotation Alzheimer.
On va lancer un appel, évidemment.
Voilà.
Donc le don, c'est sur France fonds, Alzheimer.
Non, celui-là, c'est spécifique parce que c'est une structure juridique à part. Fonds dotation Alzheimer.org.
Sans point, sans virgule.
Toutattaché.org.
Et sinon, on peut faire un don à France Alzheimer.
Et sinon, pour toutes nos actions au quotidien, effectivement, là, c'est France Alzheimer.org. Voilà.
Eh bien, on va essayer de relayer tout ça. On
merci
est vraiment
beaucoup.
Très content de le relayer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Benoît Durand, bravo pour ce que vous faites pour les patients et surtout pour les aidants, il ne faut pas les oublier. On va à présent accueillir Rémi Teston, le boss de Buzzy Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Teston, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes un habitué de Check-up Santé.
Ravi d'être là, nouveau.
Ah oui, on est ravi de vous avoir. À chaque fois, vous êtes indispensable à l'émission. Vous êtes le boss de la e-santé, on peut le dire. Vous êtes vice-président du board pédagogique MBA spécialisé digital marketing et business à l'EFAP, des attachés de presse. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'université des déserts médicaux et numériques. Vous êtes co-leader du club digital santé, qui est un think tank e-santé, et vous êtes le patron de Buzzy Santé.
Exactement.
Vous êtes ultra suivi, vous avez plus de 30 000 abonnés. Je peux donner votre adresse Twitter, oui. C'est @rteston.
Voilà, tout simplement.
Tout simplement. Alors, Rémi, on parle beaucoup en ce moment de cybersécurité dans la e-santé. Évidemment, on a vu les exemples des attaques d'hôpitaux, etc. Il n'y a pas que les hôpitaux qui peuvent se faire attaquer.
Non, il n'y a pas que les hôpitaux. Il y a beaucoup d'actualités, notamment très récentes autour des objets connectés. Mm-hmm. Parce que la semaine dernière, il y a Thierry Breton qui a présenté un projet de loi, le Cyber Resilience Act, qui veut obliger justement les distributeurs et les constructeurs d'objets connectés à renforcer la sécurité des données. Donc, ce projet de loi, il n'est pas encore adopté, mais il va être très, très important et il va forcer justement tous ces acteurs-là à renforcer leurs solutions pour qu'elles soient vraiment sécurisées. Il y aura des grosses amendes en cas de non-respect de ce
règlement. Et c'est encore plus de boulot pour ceux qui fabriquent des dispositifs médicaux.
Exactement, mais au moins ça permettra de sécuriser et éviter qu'il y ait des fuites de données assez importante à travers ces objets.
Alors évidemment, la santé, c'est un créneau formidable sur le plan business, pas seulement sur le plan scientifique et médical. Hein, et c'est pour ça que les géants du numérique poursuivent, inondent de milliards de dollars dans la santé.
Alors c'est vrai que les grands acteurs, les fameux GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont déjà présents dans le domaine de la santé depuis quelques années. Mais depuis, c'est vrai, la crise sanitaire, ça s'est accéléré encore davantage. Et certains vont très loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est l'axe prioritaire de développement d'Apple. Tim Cook a même récemment rappelé qu'ils voulaient disrupter la santé comme ils ont disrupté les télécoms. Donc c'est-à-dire l'ambition qu'ils ont dans ce domaine-là. Avec une multitude de projets.
Apple est déjà très bien placé dans le domaine de la santé ou pas ?
Alors ils sont déjà très présents. Alors ils essaient de rentrer déjà par leur montre, l'Apple Watch, qui développe un certain nombre de fonctionnalités santé importantes. On en voit notamment en cardiologie autour de la fibrillation auriculaire, où on peut maintenant avoir un suivi à travers cette montre-là. Ils sont présents depuis de nombreuses années aussi avec des applications qui s'appellent ResearchKit, où ils font des études en vie réelle à partir de personnes équipées d'iPhone. Et puis un certain nombre de projets, comme un dossier médical embarqué dans l'iPhone, qui est le Health Records, qui est déjà développé aux États-Unis.
Alors, on parle beaucoup de souveraineté. Je veux dire, de filer ces données à une boîte américaine, c'est pas problématique ?
Alors, ça peut être problématique parce que les données, souvent pour ces acteurs-là, c'est une utilisation d'ailleurs qui peut être mercantile, commerciale, pour vous proposer du contenu publicitaire ou autre. Mais c'est vrai que finalement, ces acteurs-là, ce qu'ils arrivent à faire, c'est créer des usages assez simples avec des solutions très rapides à mettre en place. Et finalement, on arrive, et notamment on voit chez les jeunes générations qui font abstraction du fait de laisser leurs données, à partir du moment où ils vont avoir un service qui répond à un usage assez simple.
Alors, on a parlé d'Apple et Google.
Alors Google est l'acteur, parmi ces acteurs-là, celui qui est historiquement depuis très longtemps dans la santé, avec une filiale qui s'appelle Verily. Et d'ailleurs, cette filiale Verily a levé auprès de sa maison mère 1 milliard d'euros. D'accord. Pour développer encore davantage tous les projets, notamment autour de la médecine de précision. Il faut savoir qu'ils sont très présents déjà dans tout ce qui est cartographie de la santé humaine, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ils vont encore plus loin avec ça.
Mais est-ce qu'ils collaborent avec des entreprises, des startups qui sont aussi extra-américaines ?
Alors, c'est vrai que Google a travaillé, par exemple, avec des laboratoires pharmaceutiques, avec des startups également, qui n'étaient pas forcément des acteurs américains. Ils essaient, en tout cas, eux, de développer un écosystème. Alors, c'est vrai qu'ils ont toujours volonté, souvent, à racheter les solutions qui leur semblent pertinentes. Mais en tout cas, il y a une volonté de créer un vrai écosystème autour de ça.
Et Amazon ?
Et Amazon est aussi un acteur très présent. Alors, eux, ils sont rentrés par l'angle de la pharmacie au départ. Et aujourd'hui, ils sont très présents dans plein d'infrastructures. Il faut savoir que, par exemple, Amazon, avec sa filiale AWS, c'est le leader du cloud et de l'hébergement avec Microsoft. Et donc, ils sont implantés dans énormément d'établissements hospitaliers. Et ils développent des solutions aujourd'hui de machine learning pour aider justement à traduire les dossiers médicaux et apporter des orientations thérapeutiques pour les médecins, pour les aider dans leur stratégie thérapeutique et dans les diagnostics.
Oui, alors justement, pour faire le lien entre Amazon, qui est spécialiste du e-commerce, et les nouveaux modes de transport dans la santé, on parle beaucoup de drones.
Exactement. Alors, on peut déjà parler d'Amazon, hein, qui a une filiale qui s'appelle Prime Air, qui est une filiale justement qui développe des drones. Ils ont déjà fait des expérimentations dans des zones isolées pour livrer des produits de première nécessité ou dans des zones de catastrophe pour livrer des premiers secours. Et aux États-Unis, ils commencent à tester dans certains États la livraison de médicaments directement. En fait, une commande en pharmacie, on se fait livrer par drone. Et puis, on a eu durant cet été aussi des expérimentations en Europe, en Belgique, avec la livraison, donc c'était à Anvers, avec plusieurs hôpitaux, la livraison de produits biologiques par drone entre les établissements. On a vu il y a quelques années une expérimentation similaire à Bordeaux aussi en France.
Pour vous, c'est l'avenir. Il risque pas d'y avoir d'embouteillage.
Il y a beaucoup de questions. Ouais. C'est vrai que ça permet justement de s'affranchir des problèmes du transport routier, hein, les embouteillages, etc. On se dit que pour, par exemple, tout ce qui est don d'organes, etc., on peut gagner du temps. Après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur des couloirs aériens. Si demain, on se retrouve avec 50 drones au-dessus de la tête, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, s'il y en a un qui nous tombe dessus, voilà.
Ah oui, c'est l'effet inverse du traitement, là. Exactement. Alors, vous avez l'habitude de nous donner votre start-up préférée. C'est laquelle cette
fois-ci? Alors, ce mois-ci, je voulais vous parler de Fast4, qui est une start-up qui est spécialisée dans la gamification, qui a déjà un programme qui s'appelle MedGame, et ce sont en fait des jeux interactifs assez simples à travers des chatbots qui sont d'abord développés pour la formation des professionnels de santé. Et donc, c'est une formation, je trouve, qui est assez intéressante parce que c'est quelque chose de ludique, de simple. C'est pas quelque chose de gamifié avec de la 3D, avec des choses très complexes. Et à travers des échanges, des simulations d'échanges, on arrive à avoir des choses très importantes, très intéressantes. Et il y a un taux d'appropriation très important des étudiants.
Dernière chose, le podcast, c'est vraiment là le média du moment.
C'est le seul format média vraiment du moment, et on le voit dans beaucoup de secteurs d'activité, alors que ce soit bien sûr des retransmissions d'émissions, mais également ce qu'on appelle les podcasts natifs, qui sont créés par des personnes, des patients, des médecins, tout un tas de communicants. En tout cas, c'est un format qui est très plébiscité aujourd'hui dans le monde de la santé.
Merci beaucoup Rémi, on boit vos paroles comme d'habitude. On va finir l'émission avec Pierre Courteil, qui est vice-président et trésorier de HealthTech for Care, qui organise les HealthTech Innovation Days.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Pierre Courteil, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes vice-président et trésorier du fonds HealthTech for Care, qui organise les HTID, HealthTech Innovation Days.
Tout à fait.
Vous avez été vice-président de France Biotech jusqu'en 2022.
Oui.
Vous êtes le président des anciens étudiants de l'Université de Chicago. Ça, c'est
tout à fait.
Ça, c'est drôle. Et vous êtes aussi quand même le vice-président d'Abivax. Alors, Abivax, malgré son nom, ça n'a rien à voir avec les vaccins.
Non. Au départ, on avait des vaccins, mais aujourd'hui, donc, on développe une nouvelle molécule dans la rectocolite hémorragique. Cette molécule,
la RCH,
tout à fait. Et on a démontré lors de l'essai clinique de phase 2 qu'on avait une excellente tolérance, une excellente efficacité, surtout au long terme, ce qui est très important pour les patients qui ont cette maladie invalidante.
Et c'est une famille de médicaments.
Alors c'est un médicament first in class. Donc ça vient de la recherche du CNRS. Ensuite, ça a été transféré à Abivax pour le développement clinique. Et donc, nous rentrons en phase 3. Donc, comme vous savez, les phases 3 sont longues et elles sont aussi extrêmement coûteuses. Donc là, nous avons très récemment levé 50 millions d'euros, mais il nous en reste encore tout au long du développement clinique de la BX-464 qui s'appelle Obefazimod. Donc, il nous reste encore quelques millions d'euros à lever.
Bon, on a déjà fait un appel pour les dons pour la France Alzheimer. Là, vous vous débrouillez. Pour le reste, vous vous débrouillez. Pour des produits qui vont sortir
2026-2027. Oui.
D'accord. Quand même.
Ouais.
Alors, HealthTech for Care, une définition?
HealthTech for Care, c'est un fonds de dotation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Marie Vognance, la présidente de HealthTech for Care et ancienne présidente de France Biotech, nous avons été à Boston et avec un petit groupe, nous sommes dit, il y a quand même quelque chose qui manque en France et en Europe, et qui existe aux États-Unis. C'est quoi? C'est la réunion de toutes les parties prenantes, de la recherche jusqu'aux patients.
D'accord, donc et tout l'écosystème santé.
Exactement. Ouais. On reprend tout l'écosystème français et on les fait se rencontrer.
On s'appelle aussi from bench to bed.
Exactement.
De la paillasse, from bench to bed.
Exactement, to bed. Ouais. Et donc et après réflexion, on s'est dit pourquoi on ferait pas ces Health Tech Innovation Days où on demande à tous les parties prenantes de venir et de discuter.
Parce que les États-Unis, c'est surtout San Francisco, c'est ça, non ?
Donc, États-Unis, on a le gros cluster bostonien, hein, et puis un gros cluster du côté de San Francisco, je dirais Californie.
Oui. D'accord. Donc, vous organisez, donc c'est déjà la quatrième édition ?
Donc, c'est déjà la quatrième édition, effectivement.
Hybride ?
Hybride.
Présentiel et online.
Ouais. Donc on attend cette année plus de 800 participants.
En sur deux jours, 13-14 octobre.
13 et 14 octobre, donc 800 participants. 150 sociétés de biotechnologie qui recherchent des investisseurs. Ouais. Environ 300 investisseurs, mais qui viennent du monde entier, puisqu'on a des investisseurs européens, des Français bien sûr, des États-Unis et d'Asie.
Donc c'est un événement même puisqu'il se veut européen, cet événement.
C'est un événement européen, mais pour les investisseurs, on va les chercher à l'extérieur aussi.
D'accord. Ouais, il est donc de langue anglaise ?
De langue anglaise.
D'accord. Tout à fait. Donc je vous l'anime l'année prochaine ?
Sans problème. Vous êtes invité.
C'est vraiment l'événement phare, quoi, non ?
C'est l'événement phare. Et c'est un événement, encore j'insiste là-dessus, parce que c'est un événement unique. Le modèle est unique, c'est un fonds de dotation, ce n'est pas lucratif.
Donc, vous êtes autonome, c'est ça ?
Complètement autonome, grâce aux mécènes. Donc, ces mécènes qui nous aident. Il y en a un paquet. Il y a à la fois des sociétés pharmaceutiques, il y a à la fois des fonds d'investissement, des investisseurs, et puis des sociétés de conseil. Donc, ce sont les trois groupes.
C'est les gens que vous utilisez, hein, c'est les entreprises européennes innovantes en santé, investisseurs, sociétés industrielles,
tout à fait,
les pharmaceutiques. Donc, vous avez des thèmes particuliers. Hein, on a isolé un petit peu quelques thèmes. Le premier, c'est l'Europe de la santé. C'est pas un peu utopique ?
Alors,
une Europe qui est un petit peu une Europe en...
Alors, aujourd'hui, il y a des choses très bonnes en Europe. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé.
Et la France fait beaucoup, il ne faut pas jeter, bien sûr, le bébé à l'eau du bain. Et la France fait beaucoup, non pour,
Donc la France fait beaucoup. Alors la France, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'actions. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, la jeune entreprise innovante. Ça donne aux biotech un terreau favorable pour pouvoir germer, entre guillemets. La BPI, hein, qui aussi finance de façon non dilutive les biotech. Donc avec tout ça...
Et puis on parle d'Europe, il y a aussi certaines...
Alors, ça existe dans certains pays d'Europe. Les Allemands essaient de copier le système, dans d'autres pays aussi. Mais il n'existe pas
Fonds européen, comme par exemple la BEI
La BEI aide des sociétés en Europe à travers des prêts non dilutifs, effectivement. C'est une des actions de l'Europe pour encourager l'innovation et contribuer à la croissance des biotech.
D'accord. Donc le fil rouge, le fil conducteur de vos deux journées, c'est le patient qui est au centre de toutes les attentions.
C'est exactement ça. Mm-hmm. C'est-à-dire à travers cet écosystème qu'on peut voir en cercle comme ça, au centre c'est le patient. Donc le patient, les associations patients, les médecins. C'est-à-dire vraiment comment on va pouvoir accélérer les développements cliniques de thérapies innovantes, par exemple. Donc, ça fait partie de notre mission. Comment faire grossir cet écosystème? Comment soutenir cet écosystème? Comment faire pour qu'il communique mieux? Comment faire pour faire sauter des silos? Parce qu'il existe beaucoup de silos. Hein. Il y a beaucoup, par exemple, il y a énormément d'associations de biotech. Bon, comment ces associations vont se parler entre elles pour avoir des objectifs communs, par exemple?
Donc, ta plateforme.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire de ramener, c'est pour que tout le monde puisse communiquer, puisse échanger et avoir une vision commune de qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe dans 10 ans.
Alors, vos deux journées, votre congrès, donc évidemment, il met au centre l'investissement. Hein,
tout à fait.
L'investissement financier, mais il n'y a pas que l'investissement financier.
Non.
Il n'y a pas que l'argent, il faut aussi trouver les ressources humaines, il faut trouver aussi les talents.
Exactement. Donc, comme vous le savez, hein, les talents ont toujours eu tendance à partir aux États-Unis parce que, justement, il existe ces clusters de compétitivité. Donc il faut savoir.
Ça reste toujours le cas un peu, non? On dit ça reste au-dessus d'une certaine somme d'investissement, on ne peut passer que par les US.
Ça reste toujours le cas. C'est-à-dire pour les sociétés, je dirais, qui arrivent au départ, qui sont financées par la BPI, par toutes les aides d'État, etc., il y a un venture capitaliste, donc du capital risque qui va arriver, qui va mettre de l'argent sur la table, la société va continuer à grossir, va arriver en début de phase 2, donc chez les patients, donc on n'est plus chez les patients, on est chez les malades, avec entre 30 et 50 patients, et là il va falloir des fonds. Et c'est là où on dit qu'on rentre dans la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des fonds, mais ça veut dire aller aux États-Unis, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais aller aux États-Unis, aller en Chine, aller chercher de l'argent.
En Chine aussi, hein,
quelquefois, oui.
Alors justement, là, évidemment, le congrès, ça sera centré autour de l'Europe de la santé, mais il y a quand même des ponts avec les États-Unis.
Oui, il y a des ponts avec les États-Unis.
De ponts transatlantiques.
Il y a des ponts transatlantiques. Je peux vous donner par exemple l'accord du CNRS avec l'Université de Chicago, qui est un accord d'échange d'étudiants. Il y a aussi tous ces bios qui sont organisés aux États-Unis. Donc là, c'est aussi des grands messes où toutes les personnes se retrouvent, tout l'écosystème se retrouve et discute. On a aussi, au niveau scientifique, il y a beaucoup d'accords d'universités européennes avec des universités américaines, de collaboration internationale. C'est le pont américano-européen.
Merci beaucoup. Checkup Santé sera là les 13 et 14 octobre.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Courteil. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.